Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Auparavant, nous insistions sur À nous le futur, mais je pense que désormais, nous devrions insister sur À nous le futur, dans le sens que nous, c'est pas toi, Musk, c'est pas toi, Trump. Alors, bienvenue beaucoup à cette émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges, j'espère que vous allez bien. Je m'en venais en auto. Et puis, je pensais à ça, ce que j'allais vous dire. Je pensais que j'allais vous dire, j'espère que vous allez bien. Puis là, je me disais, est-ce qu'ils vont? Allez-vous? Puis un peu plus loin, c'est êtes-vous? Fait que la neige, marcher dans la neige, j'aime le crissement des pas sur la neige, le crissement des roues de l'auto ou d'un vélo sur la neige. Je trouve ça sympathique, poétique et québécois. Fait que j'espère qu'on va garder le Québec en bon état. J'espère que ce sera un état. Fait que j'ai préparé mon émission pendant quelques heures hier. Et puis j'en ai presque 22 de prêtes, là, tu sais, en gros, là. Mais finalement, en me levant ce matin, j'avais des courriels qui font que j'aurais pu ne pas du tout me préparer hier, puis seulement ce que j'ai eu en courriel ce matin, ça aurait été suffisant. Tout d'abord, j'entendais... il y a quelques secondes, un extrait de chanson, cette paix dont je sens le besoin. Mais évidemment, moi aussi, exactement, là, je sens le besoin de la paix. Et puis, je recevais un des courriels, c'était du RMI, c'est le Rocky Mountain Institute, dirigé par Amory Lovins, qui est un physicien qui est l'expert mondial en efficacité énergétique. Il est venu à Montréal en 1986, je l'avais entendu parler, il parlait des lampes déjà, qui économisaient de l'énergie. Et puis, je sais qu'il a une maison au Colorado, qui, il y a au moins 20 ans, était la première en maison solaire passive et tout ça. Là, ça prend presque pas d'électricité là, pour être très confortable. Puis ça me fait penser... à ce que je lisais de Friedrich Capra hier soir, là, que dans le livre « Natural Capitalism », écrit par Amory Lovins et Paul Hawken, le facteur 10, il est possible, grâce au facteur 10, expliqué dans ce livre-là, « Natural Capitalism », je ne l'ai pas vu à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke, peut-être qu'il est ici, je l'espère, sinon PEB, tout le monde, prêt entre bibliothèques, faites venir ça. Ça prouve qu'on pourrait avoir une bonne qualité de vie avec 90 % de moins de matériaux et d'énergie. Alors ça donne, ce sont des plus jeunes là, que Buckminster Fuller, de qui je m'inspire souvent et de qui je vous parle souvent, et je vais vous en parler en 2025. Grâce entre autres à René Pelletier, qui a traduit le livre « Operating Manual of Spaceship Earth », manuel d'instruction pour le vaisseau spatial terrestre, René Pelletier, enseigné à Sherbrooke, et c'est lui qui a traduit ce livre-là. Avec Georges Kahl. J'espère bien le rencontrer bientôt. J'espère bien pouvoir l'interviewer. Fait que c'est une synchronicité extraordinaire, ça, que Buckminster Fuller, celui qui a fait le don géodésique, là, le pavillon des États-Unis à l'Université de Sherbrooke. Le pavillon des États-Unis à Montréal, sur l'île Notre-Dame, qui est devenu le musée de la biosphère. C'est une belle synchronicité qu'il a travaillé à Sherbrooke en 1914. Tout le monde semble ignorer ça, peut-être le musée de l'histoire aussi. Alors, ce serait un beau petit projet de faire un musée de l'histoire de Sherbrooke associé au musée de la science et la nature de Sherbrooke et associé à la biosphère, le musée de la biosphère. C'est un petit projet que j'ai. Donc, je reviens au RMI, le Rocky Mountain Institute, fait par Amory Lovins. Il y a un article qui m'a surpris, tu sais, parce que je le trouve optimiste finalement, là. par rapport au pessimisme ambiant, c'est la transition énergétique en 2025, que faut-il surveiller? Et le progrès a été fort en 2024 en termes de transition énergétique. Que cela signifie-t-il pour l'année à venir? Alors que nous entrons dans une nouvelle année, la course entre points de basculement est plus claire que jamais. L'année 2024 a probablement été l'année la plus chaude jamais enregistrée, augmentant le risque de basculement du système terrestre si nous ne parvenons pas à accélérer les solutions. Donc, on dit que les coûts tombent rapidement, les technologies propres croissent à échelle mondiale, que nous devons changer de perception. La nouvelle année offre des nouveaux progrès qui s'en viennent et il faut passer de l'ambition à l'action. Autrement dit, des désirs à l'action. Après 2024, l'énergie propre est moins chère que jamais, dit l'Institut Rocky Mountain Institute. Et l'adoption des technologies propres se mondialise et elles sont moins coûteuses que jamais. Tu sais, c'est pas des choses qu'on entend au Québec beaucoup, là. Une sorte d'optimisme comme ça. Pendant ce temps, la croissance des véhicules électriques a augmenté de 25 % et plus rapidement pour les camions, avec plus de 16 millions de véhicules vendus en 2024, entraînés par la Chine, qui a électrifié plus de la moitié de ses nouvelles voitures depuis juillet. Les émissions de combustibles fossiles semblaient augmenter de 0,8 % pour atteindre 37,4 gigatonnes de CO2 en 2024, mais de multiples analyses montrent qu'elles pourraient bien culminer et diminuer en 2025. Alors, je ne continuerai pas à lire ça. Je vous suggère de vous abonner au bulletin de nouvelles gratuit de Rocky Mountain Institute. Et puis, bien, une autre suggestion de vous abonner. Là, j'ai reçu le courrier de l'UNESCO. C'est gratuit. Et c'est très bon. Là, ce matin, ça parle des glaciers témoins fragiles du changement climatique. Des quelques 1400 glaciers que compte aujourd'hui la Suisse, combien existeront encore demain? La question aurait pu sembler fantaisiste il y a quelques décennies encore. Ce n'est plus le cas. Une étude de l'Académie suisse des sciences naturelles publiée en septembre 23 se montre pessimiste. Ce n'est pas seulement la fonte annoncée qui alarme les scientifiques, mais aussi l'accélération dramatique du phénomène. Bon, en tout cas, fait que... Oui, tu sais, ça ne va pas si bien que ça, j'en suis conscient. Mais je suis optimiste, hein, dans le sens que nous avons des solutions. Et c'est le but de cette émission, de parler des solutions. Puis dans ce courrier de l'UNESCO, il y avait un article d'une écrivaine. Puis on lui posait la question, êtes-vous préoccupé par l'irruption de l'intelligence artificielle dans la création littéraire? C'est une question qui ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'ai jamais eu envie de m'informer sur ce sujet. Il est certain que l'intelligence artificielle peut écrire un roman. Mais je ne pense pas qu'elle puisse jamais surpasser l'écriture d'une personne humaine, même celle d'un mauvais écrivain. Aucun programme informatique, aucune machine ne pourra jamais rivaliser avec ce qui nous est propre, l'humanité. Ça me fait penser à André Moreau, le philosophe québécois assez inconnu, qui a quand même publié 100 livres, et qui, pour ceux qui le connaissent, est quand même assez rejeté. Mais il y a une belle philosophie, en gros, une philosophie optimiste. J'aime ça en général. J'adopte beaucoup de parties de cette philosophie-là, mais je rejette une partie de sexualité trop radicale. On va dire l'inceste. Il fait la promotion de l'inceste. Ça, je ne suis pas tout de suite d'accord. Mais ce philosophe-là est intéressant pour ses autres points de vue. Et philosophe... intéressant, semblable, c'est Abdenaud Bidart, qui a écrit « Le génie de la France » ou « Les tisserands, réparer le tissu déchiré du monde ». Et Abdenaud Bidart s'inspire d'un des philosophes duquel s'inspire André Moreau, Pic de la Mirandole. Fait que, tu sais, je vous dis des affaires que j'avais prévu dire plus tard, là, ça vient spontanément. Alors, il y avait aussi ce matin dans la page Facebook de Roméo Bouchard que j'ai vérifié, un court article que je ne vous lirai pas parce que ça consommerait trop de temps. Ça fait presque 10 minutes qu'on se parle, puis j'ai pas dit 5 % de ce que je voulais dire. Alors, le pouvoir des cravates et celui des casquettes, ça, c'est l'article de Roméo Bouchard dans Facebook. C'est à propos de Trump et de Elon Musk. Ces deux qui ensemble, tu sais, contrôle le monde, là. C'est un nouveau monde là, qui s'en vient, là, qui risque de nous mettre de côté, mais ne nous mettons pas de côté nous-mêmes. Ou du moins psychologiquement. Alors, nous avons comme vision à nous, le futur, là, j'ai une vision en tant que collectivité que nous avons un nouveau potentiel. Ce nouveau potentiel, appelons-le « ce qui peut être ». En français, peut-être que ça se comprend pas bien, mais en anglais, ça se comprend mieux. « What can be », tu sais. Nous avons tellement de choses qui peuvent être, mais qui ne sont pas encore. Ça dépend de notre capacité de mettre en réalité, par notre créativité et imagination, une excellente qualité de vie locale et mondiale. C'est ça, je vais continuer un peu plus loin de là. Alors, comme je disais, je suis optimiste. Je fais état d'options pour une vie locale et globale heureuse. Et puis, je ne suis pas aveugle à ce qui ne va pas. Je vous rappelle que beau bien bon, c'est quelque chose que je vous ai dit souvent en 2024. Nous pouvons viser le beau et nous appliquer et nous impliquer pour bien faire ce beau et partager ce beau. Donc, ces trois-là, ça fait une dose de drogue que le corps crée elle-même. C'est la dopamine, c'est viser le beau, c'est le beau, là, l'émerveillement. L'ocytocine, c'est partager. Et la fraternité, puis la sérotonine, c'est s'appliquer, s'impliquer. Puis l'endorphine, bien, c'est faire un petit peu d'exercice doux. Fait que ça fait DOSE, tu sais. C'est la subtilité de ce livre-là, de la neurologue qui a écrit ce livre-là. Bon, j'ai oublié son nom, pas grave. Fait que... Il y a deux articles du Devoir qui m'ont scandalisé cette semaine. C'est Alexander Shields qui disait que le Québec n'est pas un exemple sur le plan climatique parce qu'on pollue plus individuellement puis collectivement. C'est ça. Fait que vous pouvez regarder ça dans le Devoir. Alexander Shields, le titre, c'est « Le Québec est-il devenu un exemplaire sur le plan climatique? » La réponse est non. Et puis, « Tourner le dos au projet d'énergie fossile a-t-il rendu le Québec plus vert? » Pas vraiment, dit aussi Alexander Shields. Donc ça, c'est pour nous motiver à se retrousser les manches et aller de l'avant vers une société décarbonée. Un Québec vert est possible. Si on veut, si on paye sa pédale. Fait que je continue en vous parlant d'un livre qui s'appelle « Guérir la Terre » de Philippe Desbrosses. Puis je me rends compte que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Et non seulement une bonne, mais quatre bonnes années. Pendant que, tu sais, ces quatre-là, là, Elon et Donald, ensemble, j'espère que nous achèterons pas trop. Fait que M. Desbrosses dit que nous sommes au défi d'inventer un futur heureux dans la rareté et la sobriété. Si nous ne comprenons pas que nos intérêts particuliers sont d'autant mieux préservés que nos efforts s'exercent en priorité dans l'intérêt général, alors notre génération aura manqué le grand rendez-vous de l'histoire auquel elle est confiée. Il est urgent que la Terre redevienne notre patrie commune et non un support inerte livré au pillage et à la destruction. Lâchons nos blessures, nos colères, nos peurs et travaillons dans la pleine conscience à la beauté du monde et à sa rédemption, comme nous l'ont montré les sages et les saints de tous les temps. C'est Philippe Desbrosses dans le livre « Guérir la Terre », dans lequel, entre parenthèses, Edgar Morin a écrit un petit chapitre. Et Edgar Morin, c'est quelqu'un que je commence à explorer beaucoup, là. D'ailleurs, je vais vous citer quelques phrases tout à l'heure. Ça s'en vient. Alors, tu sais, je fais une sorte d'introduction à 2025, là, en m'inspirant, en vous lisant des passages de Noam Chomsky. Ça s'appelle « Qui mène le monde ». Les perspectives de survie à long terme ne sont guère encourageantes, à moins de procéder à d'importants changements. C'est à nous que revient en grande partie cette responsabilité, car nous en avons le pouvoir, dit Chomsky. Bon, il demande qui mène le monde et il dit à la page 327, pour en revenir à la question initiale, qui mène le monde, celle-ci en soulève une autre. Quels principes et quelles valeurs mènent le monde? Cette question devrait préoccuper en premier lieu les citoyens des pays riches et puissants. Ceux-ci jouissent en effet d'une liberté de privilèges et de possibilités considérables, fruit des luttes de leurs prédécesseurs, et se trouvent devant un choix décisif quant à la manière de répondre à des enjeux d'une importance cruciale pour l'humanité. Donc, je vous encourage à lire ce livre-là, là, très fortement. Là, c'est de Noam Chomsky, Qui mène le monde. M. Chomsky parle d'un déclin démocratique, du danger, de la destruction environnementale que nous avons faite. Là. Quand je dis nous, il ne faut pas trop se sentir coupable. Et puis, également, du danger de la destruction par le nucléaire. Alors, merci, M. Chomsky, pour vos avertissements, mais il faut quand même essayer d'être optimiste. Alors, il est déjà 11h15 et c'est le temps de passer une publicité. Fait que je vous reviens dans un instant. Bonjour, ici Claude Saint-Jean pour À nous le futur. Et puis, je continue. J'ai à peu près 80 émissions de fêtes, j'ai compté ça, là. Puis je me rends vers à peu près 122. Où j'aurais à peu près dit tout ce que j'ai à dire. Et en gros, il y a 4 réformes qu'il faut faire là, pour arriver à une nouvelle renaissance urgente, rapide, profonde, calme et joyeuse à faire. C'est écrit, ça, là. Fait que ces 4 réformes-là, bien, c'est pour contrer le pessimisme imprégné de la culture colporté par les médias et... afin de se défendre contre ce pessimisme ambiant qui rentre dans nos cerveaux là, sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'explore des alternatives pour faire face à cette idéologie présente, corrosive, persistante, mortifère, multiforme. Ces alternatives sont, premièrement, la réforme de l'environnement. Apolitique. Oui, c'est Buckminster Fuller. Lui, il propose la science du design. Il a fait un plan en 1980 pour qu'en 10 ans, toute l'humanité arrive à vivre très bien écologiquement et pacifiquement. Mais ça ne s'est pas passé, peut-être parce qu'il y a seulement 1% des gens qui sont au courant. Mais je pense qu'on peut continuer à espérer qu'on peut reprendre ce plan, mais dans un monde un peu plus magané, là, de 4 crises écologiques et de 2 guerres. Plus Rwanda et Soudan en ce moment-là. Fait que, disons que, donc, dans les réformes de l'environnement, il y a Buckminster Fuller qui était apolitique. Il ne pensait pas que la politique pouvait résoudre ces problèmes-là. Mais il y en a un autre qui, lui, croyait en la politique, c'est Seymour Melman, dont j'ai parlé beaucoup, là. Celui, l'ingénieur industriel qui a écrit plusieurs livres, qui a dit que les dépenses militaires états-uniennes ont complètement détruit la capacité industrielle de... réel pour la société civile états-unienne. Fait que lui proposait la conversion d'une industrie militaire à des fins civiles. Alors ça, c'est la première réforme, la réforme de l'environnement. Il y a aussi la réforme de l'humain. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'André Moreau qui proposait que l'humain s'invente lui-même en créant son être et qu'il fasse une pratique concrète de l'être via l'eupraxia, c'est son terme, pour moderne, pour remplacer la praxis marxiste, c'est l'eupraxia. Fait que il y a 2 livres de lui que je vous suggère, c'est le traité de néolithique, c'est ça, néolithique général, et puis le traité sur l'être. Donc c'est un homme qui propose un nouveau partnership amoureux ouvert à options privilégiées et intensité variable. Il s'inspire de Pic de la Mirandole, de Berkeley, de Fourier et de Schopenhauer. Il propose une métaphysique du « je suis immanent intususceptif », une énergétique intrique, une ontologie de l'absolu immanent ou relatif et une épistémologie immatérialisme. Donc, j'ai choisi quand même de parler de lui parce que il est fort sur l'immatérialisme. Finalement, c'est que c'est l'immatérialisme qui nous mène, là, contrairement à ce qu'on croit. Et puis, c'est inspiré de Berkeley, qui n'était pas un fou, là. Donc, J'ai parlé de la réforme de l'environnement, de la réforme des humains, et il y a aussi la réforme des idées. Il y a Fridtjof Capra dans ce sens-là, qui a fait un système, c'est en anglais, de New System, une vision d'une systématique globale. Alors, il explique ça dans un livre francophone, c'est « Le temps du changement » ou dans un autre qui s'appelle « La sagesse des sages ». Je vous parlerai plus de Fridtjof Capra dans d'autres émissions. Il a fait actuellement, il offre un cours de Capra Course. C'est sur la pensée systémique, sur le réseau de la vie, sur l'ordre et la complexité dans le monde vivant, le système, l'évolution systémique, l'esprit et la conscience, la science et la spiritualité, la vision systémique de la santé, la vie, l'esprit et la société, la vie, le leadership dans les organisations, la dimension écologique de la vie, la pensée systémique et l'état du monde, puis les solutions systémiques. Alors, ce monsieur Capra, je l'ai interviewé il y a quelques décennies à Morin Heights, parce qu'il parle français. C'est un Allemand déménagé aux États-Unis et qui parle français aussi. Alors, j'adorerais l'interviewer, je lui ai demandé, là, à quelqu'un qui travaille avec lui, par Zoom, on verra si ça se passe. Et puis, bien, dans la réforme aussi qui s'en vient, c'est l'ère symbiocène à créer, en s'inspirant du livre « Les émotions de la Terre », puis ou l'ère éco-zoïque. Je ne passe pas tellement de temps là-dessus parce que j'en ai parlé beaucoup en 2024. Et si vous allez voir les capsules, les podcasts, c'est là. Par contre, je dois vous dire que j'ai été un peu paresseux. Je n'ai pas marqué les titres de chaque capsule et je vais le faire. Je vais corriger ça. Finalement, je vais parler pendant quelques émissions, là. Soit, je ne sais pas trop quand, mais je vais faire un atelier du futur. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai rêvé, je voyais trois mots, l'avenir, deux points, beau et vivable. Mais c'est un très bon résumé. C'est l'avenir, tu sais, il est beau et il est viable, c'est-à-dire qu'il est écologique. Donc, si on suppose que c'est ça qui arrive, quels seront les constituants de cet avenir-là, beau et écologique? C'est ça qu'il faut garder en tête, nous, là, tu sais, pour ne pas nous laisser embourber par Elon Musk et Donald Trump ensemble. Voir un avenir beau et viable dans notre tête et travailler à le réaliser, puis être persistant. Alors, Capra, Fridtjof Capra, dont je vous parlais, ce physicien qui écrit un cours sur la complexité écologique. J'étais un peu tanné du contenu anglais par rapport à français. Je lui ai demandé, puis j'ai eu la réponse. C'est Edgar Morin, tu sais, qui est l'équivalent à ses yeux de sa pensée. Alors, c'est pourquoi Edgar Morin, je me mets à le lire beaucoup. Et puis, lui aussi, il écrit beaucoup. Actuellement, il a 102 ans. Et puis, je pense qu'il y a une centaine de livres. Il a écrit beaucoup sur la complexité. Alors, dans un livre qui s'appelle Introduction à la pensée complexe. Il dit que nous sommes encore aveugles au problème de la complexité. Les disputes épistémologiques entre Popper, Kuhn, Lakatos, Feuerbend, etc. le passent sous silence. Or, cet aveuglement fait partie de notre barbarie. Il nous fait comprendre que nous sommes toujours dans l'ère barbare des idées. Nous sommes toujours dans la préhistoire de l'esprit humain. Seule la pensée complexe nous permettrait de civiliser notre connaissance. Alors là, je passe à deux autres pages, 156, 157. Dans Le paradigme perdu, ça c'est un livre qu'il a écrit, là, je dis que l'humanité a plusieurs commencements. L'humanité n'est pas née une fois, elle est née plusieurs fois, et je suis de ceux qui espèrent en une nouvelle naissance. La complexité n'est pas la recette que j'apporte, mais l'appel à la civilisation des idées. La barbarie des idées signifie aussi que les systèmes d'idées sont barbares les uns à l'égard des autres. Donc, c'est ça. Et puis, dans son livre « Encore un moment », il dit « Ces textes ont en commun l'inséparabilité de la vie, de la pensée et de l'œuvre de leur auteur. Il témoigne de ma curiosité polymorphe et considère notre monde à sa complexité. J'ai essayé d'éclairer quelques-unes d'ombres de l'histoire passée et récente et d'explorer plusieurs grands problèmes culturels et politiques de notre temps. Sans oublier le thème majeur, permanent et capital, qu'est-ce que la conscience? Page 55. Vite, Claude, vite, ça passe. Dans Terre-Patrie, je proposais de développer une prise de conscience de la communauté des destins humains entre eux, ce qui implique aussi une véritable conscience de notre dépendance à notre fragile vaisseau, la planète Terre. Cette conscience planétaire, en dépit de son évidence, reste très peu partagée, minoritaire ou superficielle. Ce qui veut dire que la majorité des humains vit encore dans l'inconscience de ce problème qui lui est pourtant vital. Il dit, pour une politique de la ville et de la campagne, la réflexion sur le devenir de l'humanité au cours du 21e siècle ne peut se passer d'une considération du phénomène généralisé d'urbanisation qui, d'après les prévisions actuelles, concernera 70 % de la population mondiale en 2050. L'urbanisation a pour conséquence évidente une désertification des campagnes, mais aussi le développement d'une agriculture et d'un élevage industrialisé, massif et extensif, dont on peut déjà mesurer les conséquences nocives sur la santé humaine. Tiens, Los Angeles, les buissons secs, et tout brûle là-bas, là. Désolé pour vous. Beaucoup de mégalopoles ne possèdent pas de réseau de transport public non polluant et efficace. Elles sont asphyxiées par l'usage abusif de l'automobile privée. Il s'ensuit des problèmes de santé publique liés à la pollution de l'air par des particules toxiques, à la pollution sonore, aux traces multiples, d'une vie urbaine déshumanisée. Alors, Edgar Morin, je vous engage, je vous encourage à le lire. Je ne suis pas sûr qu'il est enseigné à l'université, parce qu'il parle justement, tu sais, à l'université, on est encore dans les sciences séparées, alors que lui, c'est la science interjointe, intercalée, interdépendante, pluridisciplinaire. On passe à d'autres choses. Ça s'appelle la soupe de patates douces et de lentilles avec crème de noix de coco. J'en ai fait une, et à la maison, elle a été populaire. Alors, c'est l'Association pour la santé environnementale du Québec, ASEQ, qui propose cette soupe-là, et c'est gratuit. Alors, je vous encourage à devenir membre, et vous aurez des bonnes petites recettes une fois de temps en temps. Alors, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de Fridtjof Capra. J'ai eu trois sommaires de trois cours en français. Ça, c'est merveilleux. Je vais vous m'en servir plus tard dans une émission consacrée à Fridtjof Capra. Et puis, la FAO nous dit que les prix alimentaires mondiaux ont baissé de 2,1% en 2024. Alors moi, je me demande vraiment, comment se fait-il que les épiceries chargent plus cher si les prix alimentaires mondiaux ont baissé de 2,1% en 2024? Maintenant, je voudrais vous dire un petit mot de Édouard de Bonneau, ce médecin qui a écrit sur des techniques pour mieux penser. Alors, il a écrit le livre « Six chapeaux de Bonneau ». C'est... Attends un petit peu, là. La problématique dont ce livre-là parle est basée sur le constat que nos modes de pensée sont inconsciemment influencés par différentes informations simultanées. Qui concerne les émotions, les croyances, les opinions, les jugements, les logiques, l'historique, les sentiments personnels, etc. Ces diverses informations influent sur notre réflexion, nous empêchent souvent d'appréhender les choses de manière originale. Donc, lui, il propose d'empêcher la censure d'idées, d'offrir l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, puis d'être utile dans la résolution de conflits. Alors, la valeur ajoutée de ces six chapeaux, c'est qu'on peut être créatif et réaliste en même temps. Ce que cette émission essaie de faire. Donc, les six chapeaux, qu'est-ce que c'est? D'abord, le chapeau blanc, il représente la neutralité. Exemple, l'énoncé des éléments à disposition de manière factuelle, impartiale. Ça s'appelle autant pour l'individu qu'en réunion, là. Le chapeau rouge, c'est celui des émotions et de l'intuition. Puis quand on met le chapeau gris, bien, ça incarne le pessimisme. On évalue les risques, les limites, les freins, les obstacles, les inconvénients. Puis à un moment donné, bien là, ça va faire, on connaît ça. Fait qu'il faut passer au chapeau jaune. Lui, il exprime l'optimisme. Quels sont les avantages, les opportunités, les espoirs, les bénéfices, les rêves, etc. Puis on peut penser aussi, quand on ne sait plus quoi faire, là, qu'on n'a plus de modèle pour qui s'inspirer, bien, on met le chapeau vert. Il matérialise la créativité, les alternatives originales, les idées imaginatives, loufoques, abracadabrantes, sont formulées sans aucune censure et avec l'énergie caractéristique de l'enthousiasme. Puis, bien là, une fois qu'on a créé, puis qu'on était optimiste ou émotionnel, puis pessimiste, puis neutre, là, bien, on met le chapeau bleu. Ça personnifie l'organisation, l'analyse, la synthèse, la prise de recul, la canalisation des idées, la récapitulation, la discipline, le processus de réflexion qui permet à la séance de se dérouler convenablement et d'atteindre l'objectif fixé. Alors moi, j'ai entendu parler de ça en 1984, que dans l'ère des communications dans laquelle nous sommes censés être en ce moment, là, il est important d'apprendre à apprendre, d'apprendre à penser, d'enseigner en fonction des sortes d'intelligence et d'apprendre en fonction des sortes d'intelligence. Et cette révolution neuro-éducative ne s'est pas encore passée beaucoup. En quelques endroits, ça se passe, mais pas beaucoup. Alors, concernant l'ONU, là, je vous ai dit plusieurs fois que vous pouvez vous abonner au bulletin de nouvelles des Nations Unies gratuitement. Il est 11h34, j'ai jusqu'à 11h50. Je pense que vous finirez par arriver à ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous continuez à aller bien, que je ne vous étourdis pas trop. Et puis moi-même, ça fait un peu de temps que je n'ai pas parlé dans un micro, fait que je pense que j'ai oublié de faire de la gymnastique buccale, tu sais, pour étirer les lèvres, sortir la langue au bon moment. Et puis, bon, là, je bois une gorgée d'eau. Merci pour avoir de l'eau. Contrairement à Los Angeles, les pauvres pompiers manquent d'eau dans leur... pour combattre le feu. Alors, l'ONU nous dit que l'avenir des Nations Unies et du multilatéralisme doit être fondé sur les droits humains. Bon, alors ça, c'est très important. Allez voir ça. Les Nations Unies, c'est le bulletin gratuit. L'avenir des Nations Unies doit être formé sur les droits humains. Et puis, en Russie, une experte de l'ONU réitère son appel à la libération immédiate de Alexei Gorinov. C'était un député municipal qui a été arrêté pour censure de guerre parce qu'il se plaignait de la guerre en Ukraine. Et on dit que la situation des droits de l'homme en Ukraine est déplorable près de 3 ans après l'invasion russe. Ça, c'est l'ONU qui dit ça. Puis en Ukraine encore, il faudra des années pour aider les gens à faire face aux conséquences invisibles de la guerre. Quelles sont-elles, ces conséquences-là? Bien, 10 millions d'Ukrainiens sont déplacés. Parmi eux, 3,5 millions sont hébergés dans des communautés à travers le pays. Le ciblage systématique qui est délibéré des infrastructures énergétiques. Et puis, 60 % des installations de production d'électricité ont été endommagées. Fait que, il y a une volonté de planifier l'avenir, dit l'ONU. C'est ça, tu sais. Fait que je pensais à nous, le futur, là, nous avons un point commun. Puis à l'ONU, nous envisageons différents scénarios pour faire face à l'incertitude de l'avenir. Donc, allez voir ça. L'Ukraine, il faudra des années pour aider les gens à faire face aux conséquences invisibles de la terre et de la guerre. À Gaza, maintenant, l'ONU dit que chaque jour sans cesser le feu apportera davantage de tragédies. Philippe Lazzarini a souligné qu'aucun endroit ni personne à Gaza n'est en sécurité depuis le début de la guerre en 2023. On s'en doutait, là. Puis j'ai reçu un courriel, soyez attentifs à ça. Le comité Gaza-Youi, ou Gaza, là, de Sherbrooke, organise des manifestations au mois de janvier. Et puis, un autre article de l'ONU, c'est « Arrivez-vous à suivre tous ces décès? Parce que nous, non. Le bilan écrasant de la guerre à Gaza. » Maintenant, question de bonne nouvelle. Découvrez le service parisien de santé environnementale. Les déterminants de la santé sont nombreux, des caractéristiques individuelles aux conditions sociales, culturelles, environnementales et économiques qui entourent les individus tout au long de leur vie. La santé environnementale est constituée par l'ensemble des aspects de la santé humaine, dont la qualité de vie, déterminée par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Le service parisien de santé environnementale s'occupe de la salubrité et de l'hygiène avec la création du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Je sais qu'il s'occupe des perturbateurs endocriniens. L'objectif est de passer au crible tous les polluants et tous les déterminants environnementaux de la santé pour en améliorer la qualité de notre santé et celle de notre entourage. Si je prends quelques secondes pour vous parler de ça, c'est que j'ai déjà suggéré au conseil municipal de Sherbrooke qu'il fasse partie des villes sans perturbateurs endocriniens. Et j'ai eu un beau non de la part de l'ancien maire, M. Sévigny, je pense. Et il faut penser à une ville plus verte, plus solidaire, plus durable et plus vivable, semblable au service parisien de santé environnementale. Il faut Sherbrooke santé environnementale, tu sais, s'il vous plaît. Pour le climat, pour la nature, Sherbrooke est pas mal. Mais pour la santé, de santé environnementale, de laquelle dépend notre santé à nous, il faudra faire des progrès, s'il vous plaît. Maintenant, je vous parle du livre « Bioregional Financing Facilities, réimaginer les finances pour régénérer notre planète ». Ce que les gens disent, « Nos institutions ne nous servent plus. Nous devons donner naissance à des institutions qui soutiennent un nouveau type d'économie, un nouveau type de philosophie, un nouveau type d'ontologie, une nouvelle façon d'être sur cette planète. Et les facilités de financement biorégional peuvent jouer un rôle essentiel en soutenant cette transition. » Si je vous parle de ça, bien sûr, c'est parce que l'Institut Buckminster Fuller parle de plus en plus de biorégions, ce qui fait écho au livre d'Alain Deneau, ce philosophe québécois qui enseigne maintenant au Nouveau-Brunswick et qui était ici cet été, et qui a écrit le livre « Faire que », entre autres, là, après avoir écrit des livres sur les paradis fiscaux. Je crois que 12 % du PIB mondial est sous... menacé par les paradis fiscaux. Donc, les biorégions et Alain Deneau, merci de vous intéresser à ça. Et je vous souligne que la Journée internationale des énergies propres, ce sera le 26 janvier. Bon, comme d'habitude, malheureusement, dans son message du Nouvel An, Guterres, le secrétaire général des Nations unies, exhorte les pays à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il me semble qu'il n'a pas dit « excepté le Canada qui est si bon ». Il n'y a pas de temps à perdre. Nous assistons à un effondrement climatique en temps réel. Nous devons quitter ce chemin qui nous mène à la catastrophe et nous n'avons pas de temps à perdre, a-t-il dit. Bon. Mais en unissant nos forces, nous pouvons prendre un nouveau départ en 2025. Pas dans un monde divisé, mais en tant que Nations unies. Alors, tu sais, il parle aussi du pacte pour l'avenir, là, qui est en harmonie avec l'émission « À nous le futur », n'est-ce pas? Et puis, dans mes documentations, j'ai trouvé le document, c'est « The Green New Deal is here ». Ça veut dire « Le contrat social vert est ici ». Voici ce contrat pour combattre la crise climatique et construire un nouveau monde. C'est un plan pour décarboner les États-Unis d'ici 10 ans. Ça a été fait par le sénateur Bernie Sanders au Vermont, un démocrate, et Alexandria Ocasio-Cortez, une jeune nouvelle femme députée démocrate. Fait que moi, j'ai imprimé ça, The Green New Deal is here, puis je l'ai fait traduire par mon traducteur, là, j'ai ça en français. Fait que ça existe. Disons qu'attendez un petit peu. Je vous lis le premier paragraphe. En partenariat avec les résidents du logement social, les défenseurs du logement abordable et les militants du changement climatique, la vaste législation vise à moderniser, réhabiliter, agrandir et décarboniser le parc de logements sociaux de l'ensemble du pays grâce à un investissement estimé à 162 à 234 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Donc, dans ces 10 prochaines années, il n'y aura pas les 4 prochaines, parce que les démocrates ne sont pas au pouvoir. Mais félicitations à Bernie Sanders et à la jeune députée Alexandria Ocasio-Cortez pour leur document « The Green New Deal is here » et d'avoir fait une résolution pour en faire une législation. Elle est prête. Vous savez que M. Trump est prêt, là. dans les 9 prochaines minutes, il planifie de gracier les gens qui ont fait un coup d'État. D'ailleurs, je me demandais comment ça se fait que ça n'a pas marché, cette affaire-là, parce que les gens sont rentrés dans la Capitole. Pourquoi Trump n'est-il pas rentré? N'a-t-il pas dit je suis au pouvoir? Là. Fait que c'est un mystère. Je pense qu'il faut parler un peu plus du 6 janvier là, dernier. Là. Alors, j'ai découvert aussi que... Je vous répète que je suis abonné à Positive News. Et c'est gratuit. Je vous suggère de vous abonner vous aussi. Et puis, je suis abonné à Good News Network, qui est aussi gratuit. Ça aide à combattre le pessimisme ambiant parce que ça parle des bonnes nouvelles un peu. Et puis donc, j'ai calculé que dans un an, ces deux organismes qui publient des bonnes nouvelles en émettent à peu près 1200 par année. Fait que si vous allez voir Positive News, ils regardent ce qui s'est passé de bien en 2024. Ils ont 25 meilleures nouvelles de l'année. Puis bon, c'est ça, je ne suis pas sûr que j'ai le temps de tout vous dire ça, là. Je vais venir à ça un petit peu plus tard. Alors, il y a aussi un article dans Positive News qui donne 5 moyens pour importer de l'émerveillement dans votre vie. Et exactement, il y a un article sur combattre la désinformation. Cette personne qui défend la vérité par rapport aux fausses nouvelles. Mais ils n'ont pas l'exclusivité de ça. Nous avons ici l'émission Les Décrypteurs qui fait un bon travail. Alors, félicitations. Puis là, on voit un article sur les data centers could soon be heating your local swimming pool. Ça veut dire que les centres informatiques qui génèrent beaucoup de chaleur pourraient chauffer votre piscine locale très bientôt. Puis il y a un article là, qui vient encore de Positive News. Là. C'est un hommage au professeur Tim Lenton qui évalue les points positifs. Normalement, tu sais, quand on parle de pics, là, c'est des pics négatifs. Mais lui, il parle de possibilités de pics positifs qui vont aider à faire la transition écologique. C'est Tim Lenton, L-E-N-T-O-N, à Positive News Network. Alors, je pense qu'on va aller à l'autre publicité et je vous reviens. Rebonjour, Claude Saint-Jean pour À nous le futur. Il me reste à vous parler un peu de futurologie. Je vais vous citer quelques livres qui parlent du futur. Je m'inspire premièrement de Jacob Bronowski qui a écrit un livre qui s'appelle « A Sense of the Future ». C'est pas traduit en français, mais il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle « L'ascension de l'homme » qui, lui, est traduit en français, que j'ai trouvé à la bibliothèque de l'université de la ville de Sherbrooke. Bibliothèque de la ville et non pas l'université. Ça s'appelle « L'ascension de l'homme », écrit en 1973. Alors, on peut voir qu'il y avait encore un peu de sexisme à ce moment-là. Aujourd'hui, on pourrait écrire « L'ascension de l'humain », n'est-ce pas? Moi, l'idée de penser au futur, ça m'est venu d'un professeur de cuisine japonais qui disait souvent « Always think about the future ». Et puis, il ajoutait « Have a dream and imagination for your creation ». Ayez un rêve et de l'imagination pour votre création. Alors, je me suis rendu compte que et le futur et l'imagination ne sont pas très, du moins dans mon enfance à moi, là, n'avaient pas été très, très... c'est zéro. On ne parlait jamais du futur et jamais d'imagination. Alors, ça, c'est des ressources pour le présent très importantes. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un livre de l'UNESCO qui s'appelle « Aux sources du futur ». De Amadou, traduction Matar, M-B-O-W. Et puis, un livre en français assez rare, tu sais, sur le futur, ça s'appelle « Maîtriser le futur », présenté par Dr. Boris Prigel, ancien président de l'Académie des sciences de New York. Je passe un peu vite, là, parce qu'il reste une minute et demie. Là. Exactement, il y a un manuel d'histoire du futur, « Comment nous avons changé de cap », 2020-2030, c'est excellent. Le livre de Christiniana Figueres, ça s'appelle « Inventons notre avenir ». Je vous en ai déjà parlé, mais c'est très bon, ça. T'sais. Et puis d'un jeune qui s'appelle Julien Vidal, un jeune français, Le livre, c'est « Imagine demain, ça commence par moi ». Donc, « Imaginez demain », c'est très pertinent. Et puis... deux autres livres, finalement. Un de Julien Vidal, c'est « 2030, glorieuse, utopie vivante ». C'est excellent pour augmenter la littératie du futur. Et finalement, le livre « Transformer le futur, l'anticipation au 21e siècle », c'est aux éditions UNESCO. Alors, je termine comme ça aujourd'hui, là. J'ai parlé un peu à la course, je suis désolé, mais je ne pense pas vous avoir étourdi. Et parce que je vous sais que vous êtes des bons marathoniens, des bonnes marathoniennes cet hiver autant que le printemps prochain. Alors, portez-vous bien. Mon nom est Claude Saint-Georges. C'est à vous le futur, c'est à vous le beau futur. Et réfléchissez à l'avenir beau et viable, car je vais vous poser des questions dans quelques semaines. C'est quoi l'amour, l'avenir beau et viable pour vous? Pratiquez-vous, ayez ça en tête au lieu des pensées de Trump et de Musk. Salut!